Edinson Cavani, un prêté pour un rendu entre les Uruguayens et le Brésilien Coração qui est en train de naître.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'avant-match, eh bien, toute l'équipe est là, bien entendu, les consultants. La deuxième partie, Frédéric Hermel et également notre ami Simone Rovera, le football italien et espagnol. Et la première partie, on parlera du football africain, le football français, l'Allemagne et l'Angleterre. L'équipe technique également, de l'autre côté de la vitre, notre ami Mustapha. Et également, si Mohamed est également avec nous, c'est Mohamed Ait Baha, bien sûr, pour la retransmission. Vous le savez, vous pouvez suivre cette émission sur la page officielle de la radio, sur Facebook, bien sûr, avec vos commentaires, comme d'habitude. Le football africain, rapidement, on va essayer de libérer notre ami Hervé Penaud. Rapidement, vous le savez, en Afrique, il y a les quarts de finale des coupes africaines, la Coupe de la CAF et également la Ligue des Champions. Le Maroc a deux représentants dans chaque compétition, mais gros plan sur la Coupe d'Afrique des clubs champions, parce que, eh bien, à l'issue des matchs allés, les équipes qui ont joué à domicile ont pris une sérieuse option, mais rien n'est encore joué, Hervé.
Trois victoires par 2-0, une autre par 3-1, et les deux clubs de Casablanca, évidemment, font figure quand même de favoris aujourd'hui pour atteindre les demi-finales. Maintenant, il y a toujours des interrogations. On sait que Mamelodi Sundowns avait battu 5-0 à l'Ali il y a un an, à domicile, donc on peut toujours dire qu'ils ont la possibilité de le faire, et ce Al Ahly est vraiment très très impressionnant, hein. Invaincu en championnat d'Égypte, encaissant quasiment aucun but, c'est une machine de guerre, hein, une machine de compétition, de haute compétition, et ça va être très très compliqué de les renverser. L'espérance, l'espérance reste l'espérance avec ce que ça veut dire. Les sanctions qu'ont touché quatre joueurs, c'est un vrai souci. Hein. Il s'est passé des choses pas très belles après le match. Et aujourd'hui, évidemment, l'espérance, même soutenue par un public fervent, se retrouve quand même en difficulté face à ce Zamalek-là, d'un Carteron qui a déjà su à peu près y faire avec sa nouvelle équipe. On sait sa capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, ils sont quand même favoris de cet affrontement. Et puis, quant au Raja et au Wydad, évidemment, là aussi, ils vont partir avec un avantage. Je pense que le Wydad devrait s'en sortir plus facilement que le Raja, parce que le TP Mazembe, on sait que c'est toujours difficile là-bas. On sait que le président Moïse Katumbi a déjà mis la pression sur tout le monde et a déjà expliqué que de toute façon, le TP le fera. Et attention, parce que c'est vrai que c'est une équipe capable de tout dans son stade. Les corbeaux sont très très costauds et sont soutenus par un public très très chaud. Donc à suivre, ça va être un match très très intéressant. Pour l'instant, le Raja quand même a deux buts d'avance et c'est pas rien.
Voilà, le Raja de Casablanca qui se produit donc à Lomobashi face au TP Mazembe. On aura l'occasion de revenir sur ces rencontres. Bien sûr, vous avez entendu par exemple notre envoyé spécial à Tunis, Fouad Hanaoui, pour le match entre l'Espérance et l'équipe du Zamalek, et également demain l'OAC, le finaliste de la dernière édition, qui affronte l'Étoile du Sahel. Voilà donc pour le football africain. On parle du football européen, on le sait, la finale de la Coupe de France, ça sera entre le Paris Saint-Germain et l'équipe lyonnaise. Lyon, plutôt lyonnaise, parisienne, le PSG qui s'est imposé 5-1 face à cette formation lyonnaise, mais est-ce que ce score reflète vraiment la physionomie de la rencontre, parce que cette équipe lyonnaise a dominé à 11 contre 11, a dominé le PSG. Après, il y a eu une expulsion et un pénalty, Hervé.
Très très bousculé pendant une heure, ça a été même compliqué. Terrier a raté une occasion de 2-1 alors que Lyon était dans une superbe période. Mais il y a eu l'expulsion de Marçal pour une main dans la surface de réparation, et c'est pas simplement l'expulsion qui a tout changé, c'est l'expulsion et le pénalty qui est venu dans la foulée, qui a permis à Neymar de marquer un but. Et évidemment, à partir du moment où il y avait 2-1 à 11 contre 10, et Lyon sort de je sais pas combien de matchs, c'était leur 16e match depuis le début de l'année, un peu fatigué, ils ont un peu perdu le moral, et puis tout s'est écroulé, ils ont perdu 5-1. Mais ce 5-1 ne reflète pas vraiment la physionomie du match, et surtout cette physionomie avant l'expulsion de Marçal, où là Lyon a fait plus que jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Il les a plus que regardés les yeux dans les yeux, il a même dominé ce Paris Saint-Germain. Alors c'est tout bénef pour Lyon, prouver que sait-on jamais, peut-être qu'il y a un coup à faire à les Juifs, mais c'est surtout pour le Paris Saint-Germain une interrogation sur sa capacité à s'en sortir contre Dortmund, parce qu'ils ont eu beaucoup de fragilité une nouvelle fois. Mais alors, il y a un joueur qui est hors norme en ce moment, c'est évidemment Kylian Mbappé.
Voilà, Kylian Mbappé qui a réussi un triplé, il a laissé une forte impression. Bien sûr, parmi les auditeurs, Maud Edbo qui dit bonsoir Hakim, une pensée émue au club de l'Étoile de la Guinée. On en a parlé avec Hervé Penaud justement dans nos précédentes éditions. Le club guinéen qui a perdu 9 joueurs à l'issue d'un accident dramatique qui s'est produit hier. L'équipe qui évolue en deuxième division décimée des joueurs, des responsables et également des membres du staff qui ont perdu la vie dans cet accident. Le bonjour également à Samir Ouarab. On accueille, avant de poursuivre avec Hervé, Aurélien de Vernoy, notre monsieur football anglais, avant de partir en Allemagne. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
Vous restez avec nous, une dernière question à Hervé et ensuite on revient vers vous. Un petit mot sur Saint-Étienne qui revient en finale après des décennies d'absence. Saint-Étienne qui s'est qualifié, Boudabouz, l'international algérien a inscrit le but de la qualification pendant le temps additionnel. Mais surtout, les Verts sont très mal classés en championnat, Hervé.
Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Alors ça, c'était l'hymne des Verts des années 70, les plus forts, c'était Saint-Étienne. Aujourd'hui, ils sont bien loin de tout ça. Mais, ils vont renouer un peu avec leur gloire d'antan en se retrouvant en finale de cette Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Pour être honnête, je ne leur donne pas beaucoup de chance. Mais, c'est quand même super. On a vu un public incroyable qui était tellement heureux d'aller en finale. Ils ont envahi la pelouse, c'était énorme. Ils ont gagné à la dernière minute sur un but de Boudabouz. Il était quasiment en pleurs après lors d'une interview, c'était assez incroyable. Donc voilà, ils retrouvent un peu leur lustre d'antan, mais attention, en championnat, ils sont très très bas, et ils ne sont pas loin de la place de barragiste, voire encore plus bas. Donc il ne va pas falloir se contenter de cette finale de la Coupe de France, il faut assurer le coup déjà en championnat, être sûr de ne pas descendre, et puis, qui sait, rêver à aller un peu plus haut.
Merci beaucoup Hervé Penaud, notre consultant pour le football français et africain. Merci à lundi prochain pour revenir justement sur les quarts de finale retour des deux compétitions, la Coupe de la CAF et également la Ligue des Champions. David Lortolari, notre monsieur football allemand, est également avec nous. Bonsoir David.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
David,
bonsoir.
David et Aurélien sont avec nous. Une question de notre auditeur Omaro. Est-ce que le joueur objet de la sanction de la FIFA va jouer le match retour? Le joueur du Raja, bien sûr, Malongo, le joueur congolais, eh bien, il pourra jouer demain avec le Raja contre le TP Mazembe, mais il devra payer une amende. Voilà pour la précision. Le football allemand et anglais, bien entendu, Liverpool qui volait de victoire en victoire pendant plusieurs mois. Eh bien, un coup de moins bien en ce moment, des défaites. Bon, une première, ça va, la deuxième. Est-ce qu'on peut parler d'inquiétude, Aurélien?
Ah, on ne peut pas dire que la situation est très reluisante. Hein. Quand on perd 2-0 contre Chelsea en huitième de finale de la Coupe d'Angleterre, c'est quand même pas un bon résultat. On peut pas dire ça. Après, évidemment, tout est relativisable dans le sens où... Liverpool, ses objectifs sont plus dirigés sur la Première Ligue et sur la Ligue des Champions, mais malgré tout, une troisième défaite consécutive, ça fait tâche. On en avait parlé en début de semaine, je vous avais dit que Chelsea allait arriver très motivé pour cette rencontre, c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, il y a surtout quelque chose qui a changé depuis cette première défaite contre l'Atlético il y a une dizaine de jours, c'est que les équipes en face se disent « en fait, ils sont prenables ». Parce que jusque-là, Liverpool était tellement fort, paraissait quasiment invulnérable, gagnait même en faisant des matchs très moyens. Et là, ben, les équipes se sont rendues compte qu'en poussant un peu, en appuyant sur les défauts que peut avoir cette équipe, hein, sur des fois des petits problèmes d'intensité, parce qu'on sent qu'il y a de la fatigue chez les joueurs, des fois ça c'est un peu fébrile en défense aussi, et bien en appuyant là-dessus, et ben il y avait la possibilité de battre ce grand Liverpool de cette saison, et c'est ce qui s'est de nouveau passé avec Chelsea. Et Liverpool, qui joue contre Bournemouth ce week-end, devra faire attention là aussi, même si c'est une équipe mal classée, de ne pas laisser cette spirale de défaite se poursuivre, parce qu'il y a ce match retour contre l'Atlético la semaine prochaine et qu'il faut engranger un tout petit peu de confiance, parce que quand les adversaires commencent à se dire que l'on est battable, et ben du côté de l'équipe de Liverpool, le moral baisse un peu et on se dit qu'en effet on peut perdre.
Voilà, justement, comme on dit, les victoires appellent les victoires et les contre-performances parfois, eh bien, provoque ce manque ce manque de sérénité. Juste un petit mot en Allemagne, après on revient sur Liverpool, parce que le gardien est incertain, Alisson. En Allemagne, l'information, c'est que peut-être les matchs seront perturbés, voire interrompus par, on va dire, entre guillemets, certains supporters en Allemagne, parce que on a vu ce qui s'est passé le week-end dernier. Est-ce que cela risque de dégénérer? Enfin, quelques explications, David.
Oui, oui, c'est le contexte, Hakim, qui veut cela en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a cette règle des trois paliers avant d'interrompre un match. D'abord, une tribune avec des signaux soit racistes, soit xénophobes, soit menaçants pour une personne. Et dans ce cas-là, l'arbitre a l'autorisation d'arrêter le match ponctuellement. La deuxième étape, si ça recommence, on arrête le match et on envoie les joueurs dans le vestiaire. Et la troisième étape, c'est l'arrêt pur et simple du match. Donc on craint en Allemagne que des supporters profitent de cette situation avec le contexte récent, avec les menaces envers Dietmar Hopp, le propriétaire d'Offenheim, avec l'interruption récente des matchs. On craint que cette règle ne soit utilisée abusivement et comme les supporters évidemment se donnent le mot, communiquent d'une équipe à l'autre, les ultras notamment, on a peur qu'il y ait des excès, des abus qui soient commis. On avait craint cela cette semaine en coupe et il n'en a rien été. Les supporters ont plutôt fait de l'humour d'ailleurs et du deuxième degré vis-à-vis de cela. Donc ça s'est bien passé cette semaine en Coupe d'Allemagne. Mais il y a toujours cette menace pour le championnat ce week-end.
Voilà donc pour ces explications, David, pour notre auditeur Hicham Benchir. On a transmis la remarque et bien entendu le nécessaire sera fait. Voilà donc pour cette parenthèse. Je reviens vers Aurélien, parler de Liverpool et les incertitudes concernant son excellent gardien Alisson. Incertain, c'est vrai qu'il y a des matchs, mais surtout c'est ce fameux match qui se profile à l'horizon contre l'équipe de l'Atlético. D'après une certaine presse, on dit qu'il est écarté, mais a-t-il des chances de jouer face à l'Atlético, Aurélien ?
Alors c'est très peu probable, en tout cas Jürgen Klopp a dit qu'a priori il ne serait pas de retour avant au moins deux semaines, puisque avant le retour de la trêve internationale. Ce qui s'est passé, alors ça c'est les informations que donne la presse britannique, c'est qu'il s'est blessé juste avant le match de coupe contre Chelsea à l'entraînement. Il s'est blessé à la hanche, il s'est déchiré un muscle, et donc du coup il a été remplacé par son numéro 2, l'Espagnol Adrián, qui a d'ailleurs pas fait un très bon match contre Chelsea et qui fait partie de ces, on va dire, facteurs de risque pour Liverpool, parce que c'est pour l'instant le joueur qui a concédé le plus d'occasions menant à un but des adversaires depuis le début de saison, Adrián. Donc c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour Liverpool. Donc Alisson, c'est sûr qu'il jouera pas ce week-end contre Bournemouth, et c'est très probable qu'il ne joue pas contre l'Atlético. C'est en tout cas ce qu'a dit Jürgen Klopp. Il y a toujours des possibilités de petits intox, mais là je pense qu'il est vraiment blessé et je pense que vraiment il va pas jouer ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle, parce que c'est on va dire l'homme de base avec Van Dijk de la défense de Liverpool, et en effet Adrián ne donne pas les mêmes garanties de sécurité que le gardien brésilien.
Voilà pour Alisson, le gardien brésilien de Liverpool. Je reviens vers David, c'est toujours peut-être l'extra sportif, parce que malheureusement ces derniers temps, un peu partout, on le voit, ces problèmes de racisme, et le Bayern Munich, comme on dit, a décidé de prendre le taureau par les cornes avec une campagne, beaucoup de joueurs, beaucoup de responsables impliqués pour donner le temps et également l'exemple et essayer d'éradiquer ce genre de choses qui malheureusement, parfois, bien sûr c'est pas la majorité, mais parfois reste ce qu'on garde parfois à l'issue de certaines rencontres.
Oui, le Bayern a tourné très vite en réaction avec les événements récents, un clip en noir et blanc, très solennel, avec Rot gegen Rassismus, c'est-à-dire le rouge, c'est-à-dire la couleur du Bayern, contre le racisme, c'est le slogan qui a été utilisé, et c'est un clip qui a été jugé très réussi, très marquant, très solennel, avec la plupart des joueurs, en tout cas les plus charismatiques de l'effectif, qui se sont exprimés pour dire ce slogan les uns après les autres.
battre les dirigeants aussi. On a vu Karl-Heinz Rummenigge dans ce clip, on a vu Uli Hoeneß, on a vu Herbert Aigner aussi, le nouveau président du Bayern qui remplace Uli Hoeneß depuis quelques semaines. Et c'est un clip qui peut évidemment aller dans le sens d'une communication forte, puisque le Bayern et notamment son principal groupe de supporters, la Schickeria, sont connus pour avoir des positions très sociales, très à gauche de l'échiquier politique, et on estime que ça peut avoir une portée importante, et en Allemagne c'est un clip qui a été salué unanimement.
Voilà, on va parler du sportif à présent. La Coupe, déjà, avant d'évoquer, si on a le temps, le match du week-end, enfin l'affiche en tout cas. Et on connaît le dernier carré, il y a le Bayern, il y a Leverkusen, mais il y a surtout Sarpouk et, on va dire, le scénario et le gardien de cette équipe. Vous nous rappelez ce qui s'est passé cette semaine, rapidement, David?
Ben oui, et c'est d'autant plus magnifique cette qualification au tir au but de Sarpsborg, club de 4e division, que ça s'était déjà produit par le passé, en 1985, il y a un précédent, avec un gardien déjà qui avait été un héros pour cette équipe, qui avait atteint le même stade de la compétition, les demi-finales, et là, la presse évidemment a fait le lien, entre le parallèle entre ce gardien de 1985 et le gardien actuel qui a qualifié son équipe, parce que c'est lui qu'il l'a qualifié clairement, deux tours consécutifs. Il l'a qualifié en huitième de finale et il l'a qualifié à nouveau dans une autre séance de tir au but cette semaine avec des arrêts. Alors je sais plus, j'ai même plus compté si c'est trois ou quatre arrêts dans une séance, mais rendez-vous compte quand même pour un gardien de but. Et il en a plaisanté en disant qu'il existait des gardiens de but très forts, de très haut niveau, qui n'avaient jamais arrêté un tir au but et un pénalty de leur vie. Alors c'était une plaisanterie bien sûr, mais Sarpsborg fait partie des belles histoires de la Coupe d'Allemagne. Il y en a parfois. On a parfois des clubs de division inférieure qui arrivent en demi-finale ou en finale. Et ce sera, pour le tirage au sort qui aura lieu dimanche, évidemment le petit poussé, puisque les autres, ce sont des gros. Hein. Le Bayern, Leverkusen notamment, sont bien là pour ce dernier carré.
Vous restez avec nous, David. On aura une question à la fin, parce que le virus, bien sûr, en Italie, on l'a vu, en Espagne aussi, peut-être l'Angleterre et peut-être aussi l'Allemagne, surtout avec un match international, un match amical qui doit opposer l'Allemagne à l'Italie et peut-être qui n'aura pas lieu. Ça sera à la fin de ce mois. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, toujours côté sportif, mais en Angleterre, on parlait de Liverpool en petite forme, Aurélien. Mais il y a l'équipe de José Mourinho aussi, après un bon début du technicien portugais. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessures, mais l'équipe enchaîne les mauvais résultats, Aurélien. Je parle de Tottenham,
oui,
bien sûr.
Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que Tottenham a... Bon, encore une fois, il y a des circonstances entre guillemets atténuantes pour Mourinho. C'est que ses deux meilleurs joueurs, Harry Kane et son attaquant sud-coréen Son, sont blessés. Donc c'est toujours difficile de maintenir le niveau d'une équipe quand les deux flèches de l'avant sont pas là. Mais c'est vrai que cette semaine en Cup, il y a eu une vraie contre-performance. C'est cette défaite à domicile contre Norwich, qui est dernier de Première Ligue. Alors Norwich qui est capable de sortir des bons matchs malgré tout, hein, puisqu'ils n'ont pas une équipe qui est si mauvaise que ça. Mais malgré tout, le fait de perdre à domicile alors que Tottenham est quasiment éliminé déjà de la Ligue des Champions et n'avait que la Cup pour continuer à espérer d'avoir un titre cette saison, c'est forcément très décevant. Et d'ailleurs, ça pose la question de l'avenir déjà de José Mourinho à la tête de cette équipe, parce qu'il était vraiment arrivé, il l'avait revendiqué en disant « moi, sous-entendu, contrairement à Pochettino, je vais faire gagner des titres à Tottenham ». Bon, bah, ça sera pas cette saison, et c'est vrai que il va falloir vraiment se poser la question de la capacité à Mourinho de relancer des équipes ou de rebâtir cette équipe de Tottenham, d'autant plus que l'ambiance n'a pas l'air extraordinaire. Il y a eu vraiment un incident assez triste à l'issue de cette rencontre. Le milieu de terrain de Tottenham, Eric Dier, qui s'est écharpé avec un fan, parce qu'apparemment ce fan avait insulté la famille d'Eric Dier. Mais bon, ça prouve vraiment la fébrilité qu'il y a dans cette équipe de Tottenham, et José Mourinho a vraiment du mal à maintenir la formation à flot.
Voilà donc pour le Tottenham, les quatre dernières minutes entre David et aussi Aurélien. On le sait, le calendrier sportif international a été bousculé Beaucoup de manifestations sportives à travers le monde qui ont été reportées ou tout simplement annulées. Pour le football, on l'a vu, en Italie, des matchs à huis clos, l'Espagne ce week-end, et aussi en Angleterre, est-ce qu'il y a ce risque? Et puis en Allemagne, surtout parce que la ville de Nuremberg devrait accueillir le match amical entre l'Allemagne et l'Italie. Mais apparemment, David, la municipalité est contre cette idée.
Oui, alors il n'y a pas d'informations confirmées, fiables à l'heure où nous parlons sur des mesures, par exemple de restriction du nombre de supporters dans un stade ou dans une enceinte sportive, comme on peut écouter en France par exemple, et à fortiori en Italie. Aucune décision de ce type n'a encore été prise. En Allemagne, on a surtout fait la une en ce qui concerne l'international, aujourd'hui en particulier sur l'état de santé actuel de Marco Reus, qui est considéré encore comme un joueur essentiel de l'équipe nationale, qui devrait manquer, nous a-t-on expliqué, 3-4 matchs encore et qui devrait donc pouvoir être tout à fait opérationnel pour l'Euro. Voilà, c'est plutôt le sportif sur le plan de l'équipe nationale qui pour l'instant fait l'actualité. On n'a pas d'informations confirmées et fiables sur le report ou l'annulation de rencontres éventuelles.
La sélection allemande qui doit affronter le 26 mars à Madrid. La sélection espagnole, on le sait, l'Euro, c'est bientôt. En ce qui concerne l'Angleterre, il y a des doutes là-dessus aussi, il y a des risques aussi que le championnat soit perturbé, Aurélien.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui se dit de plus en plus parmi les clubs de Première Ligue, c'est que il est possible que quasiment toute la fin du championnat se fasse quasiment à huis clos, parce que si vous voulez, si l'Angleterre comme la France par exemple atteint le stade épidémique du coronavirus, donc de l'épidémie, ça veut dire que ça va durer de 8 à 12 semaines, c'est-à-dire de 2 mois à 3 mois. Donc si vous voulez, si on est dans une situation épidémique et qu'il faut limiter les rassemblements de personnes, évidemment que c'est pas recommandé de mettre 40 000 ou 50 000 ou 60 000 personnes dans un stade. Et donc, il est fort possible, en effet, que quasiment les 10 derniers matchs de la saison se jouent à huis clos, ce qui serait vraiment dommage pour le spectacle. Dommage, évidemment, pour un club comme Liverpool, qui a quand même toutes les chances de s'imposer et qui pourrait ne pas pouvoir faire la fête avec ses fans dans son stade comme prévu. Et puis, c'est vrai que pour les matchs amicaux également, il y a des doutes, puisque l'Angleterre doit également affronter l'Italie le 27 mars. Là aussi, on ne sait pas trop. Est-ce que des supporters italiens pourront venir en Angleterre? C'est très peu probable. Voilà, il y a beaucoup de choses en suspens à ce niveau-là. Même si, a priori, on ne parle pas d'annulation de la fin de championnat ou de la suspension du championnat pour l'instant, parce que les enjeux financiers, je pense, seraient beaucoup trop importants par rapport, on va dire, à la menace sanitaire réelle que fait peser la maladie.
Merci beaucoup Aurélien de Vernois, notre monsieur football anglais, également David Lortolari, notre monsieur, le spécialiste du football allemand. On vous retrouve lundi et prochain. Dans la deuxième partie, on aura Frédéric Hermel et également Simone Rovera pour le football en Italie et également en Espagne. On passe le bonjour à nos auditeurs, Mohamed Ait Ali, Hussein Hayani ou encore Abdrahim Bakali qui dit « Vive le WAC, le WAC qui joue demain face à l'étoile du Sahel ». À tout à l'heure. La deuxième partie de l'avant-match tout à l'heure, eh bien, on a parlé avec Hervé et également notre ami Aurélien de Vernois, sans oublier David Lortolari, le football en Allemagne, en Italie et l'Afrique aussi, sans oublier la France. La deuxième partie, le football en Italie avec un choc, on va y revenir dans un instant, même si eh bien, c'est le huis clos, on en a parlé la semaine dernière, et également le football en Espagne. Simone Rovera est avec nous, bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Quel plaisir de parler des footballs.
Le football, tout à fait. Frédéric Hermel à Madrid est avec nous. Bonsoir, Fred.
Bonsoir, Hakim. Bonsoir, Simonet.
Eh bien, le football en Italie dans un instant. D'abord, la finale de la Coupe d'Espagne, on le sait. Eh bien, cette finale sera à 100% basque, la Real Sociedad face à l'Athletic Bilbao à l'issue des demi-finales. Eh bien, les deux équipes basques ont sorti les mastodontes, on va dire, le Real et le Barça. Et la dernière victoire de la Real Sociedad, c'était la dernière défaite, la dernière finale, c'était face au Barça. Bilbao aussi, la dernière défaite et la dernière finale, c'était face au Barça. Le Barça qui détient le record de victoires. On va parler du Barça dans un instant. Mais d'abord, cette finale basque, c'est historique, Fred.
Oui, en fait, c'est vraiment depuis les demi-finales, voilà, quand on a eu le programme, c'est la finale rêvée. Il faut bien dire, avec tout le respect qu'on peut avoir, par exemple, pour
Mirandes,
ou surtout pour Mirandes, quoi, voilà, une équipe de deuxième division. Voilà, une finale basque. En plus, on sait que ce sont deux équipes où il y a beaucoup de supporters. Surtout, l'Athletic Bilbao, en dehors du Pays Basque, c'est une équipe qui peut avoir des supporters à Valence, à Madrid ou à Séville. On sait que historiquement, l'Athletic Club de Bilbao est le troisième club historique de l'Espagne derrière le Real et le Barça, tout simplement parce que c'est le seul avec ces deux équipes-là qui ne soit jamais descendu en deuxième division dans toute l'histoire de la Liga. Donc vraiment, c'est une très belle finale qui va se jouer à Séville dans le stade olympique. Puisqu'il y a eu des négociations entre la Fédération espagnole et la ville de Séville. C'est le stade, vous savez, qui avait servi pour les JO, l'Expo universelle à Séville en 92, qui a servi pour pas mal de choses, mais enfin, qui était un peu un stade abandonné, même s'il avait accueilli une finale de l'UEFA entre le Porto de José Mourinho, c'est il y a longtemps hein, quand même, et le Celtic de Glasgow. Je m'en souviens parce que j'y étais. C'est aussi un terrain qui a une piste d'athlétisme, donc pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, puisque c'est un contrat de plusieurs années. Le stade va être un peu remodelé pour qu'enfin il y ait une finale fixe. Alors vous allez dire pourquoi je parle de ça? C'est parce que tous les ans, vous savez sûrement ça, vous qui suivez le foot espagnol, il y a de grosses discussions sur où va se jouer la finale. Au moins, on sait que pour les 4 prochaines années, ça va se jouer à Séville et ça évitera beaucoup de débats. Par exemple, que le Bernabéu ne soit pas disponible comme par hasard quand c'est le Barça qui est en finale ou que le Camp Nou ne soit pas disponible quand c'est le Real qui est en finale. Voilà, ça c'est une bonne décision du président pour une finale où il y aura beaucoup, beaucoup de monde parce que, j'insiste là-dessus, les supporters de la Real et les supporters de l'Athletic Club, ce sont vraiment des fans énormes et qui se déplacent pour suivre leur équipe. Donc oui, c'est une très belle finale, il faut le dire.
Voilà donc pour cette finale à 100% basque entre la Real et l'Athletic Bilbao. Le bonjour à Saïd Si, une belle affiche, Oskadi et également Ahmed El-Ouattri. Le football en Italie, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'extra-sportif, mais eh bien, on va reparler football malgré ce qui se passe actuellement un peu partout à travers le monde, Simone.
Oui, bien sûr, l'Italie continue quand même à être un pays très touché. D'aujourd'hui, le fait que plusieurs événements sportifs sont annulés, comme la course Milano-San Remo, la course en vélo, on sait très bien, ou les finales des Coupes du Monde de ski à Cortina. Mais le football reprend. On avait presque mis une pause parce que il y a certains matchs qui ont été journés dès la 26e journée, le week-end dernier, et les autres vont être joués ce week-end. Donc, à partir de dimanche, Parma-Spal, Milan-Genoa, Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, bien sûr, 20h45 dimanche soir, Juve-Inter, et lundi, Sassuolo-Brescia. On reprend donc avec un choc. C'est Juve-Inter, on parlait du final pour la Coupe d'Espagne. Ça, c'est presque une finale pour le titre, parce qu'aujourd'hui, avec les classements un peu changé par ces matchs en retard, matchs reportés, on a une Lazio qui est bien devant, bien loin devant à l'Inter pour dire 8 points d'avance. Et on sait bien qu'en cas de défaite, par hasard, pour l'Inter, ce serait presque une sortie de la course au titre. Donc on se retrouve avec cette Juve-Inter qui vaut énormément parce que la Juve, on ne l'a plus vu jouer depuis cette défaite face à Lyon, donc ça reste sur cette match incroyable, inattendu, et cette défaite en Ligue des Champions, et la Juve a envie de redresser la tête. Il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire Giorgio Chiellini s'est bien entraîné sur ces derniers jours, on l'avait vu pas extraordinaire face à la Spal, on me dit qu'aujourd'hui il est prêt pour être titulaire face à l'Inter. La Juve a récupéré aussi Khedira, un maître au monde, non, mais on sait très bien que c'est que l'homme d'équilibre, il est au milieu de terrain, donc la Juve dans ces derniers jours à récupérer des joueurs importants, se retrouve à un niveau, on peut dire, émotif un peu mieux. Même cet souci qu'il y avait eu, grave souci de santé pour la maman de Cristiano Ronaldo, a été résolu. Donc Cristiano est revenu et s'entraînait bien. C'est Juve qui arrive avec beaucoup d'envie, beaucoup de rage aussi. Et en face, on trouvera une Inter qui joue beaucoup. Il y a un doute des formations pour l'Inter, qui c'est très important. Est-ce que Antonio Conte va faire jouer titulaire Eriksen, la pépite arrivée dans les mercato d'hiver, qui n'est pas encore réussi à trouver une place dans ce système 3-5-2 du coach italien? L'autre bonne info pour les Nerazzurri, qui après 3 semaines retrouve dans le but Handanovic. On sait bien les erreurs qui ont coûté cher de son remplaçant Padelli, qui ont coûté le match, surtout face à la Lazio. Avec Handanovic dans les buts pour l'Inter, c'est déjà un autre match, parce que au moins l'Inter ne part pas avec un but encaissé. D'un côté, il y a Cristiano et la Juve partent avec un but d'avance. Et de l'autre côté, si tu as les gardiens remplaçants, tu partes avec un but encaissé, bah, ça aurait été très compliqué pour l'Inter ce match.
Voilà donc pour l'Italie. On revient dans un instant chez Simone. On passe le bonjour à tous les auditeurs. Khalid Nechat qui souhaite un bon courage aux Wydad de Casablanca en Ligue des Champions, toutes les équipes et également à l'équipe, le staff de la radio, bien entendu. On parle du football espagnol. On a évoqué le classico, enfin le classico, non, le derby basque pour la finale. Le championnat espagnol est dominé pour l'instant par le Real Madrid, un point d'avance sur le Barça. Les deux équipes ont des matchs importants ce week-end, mais le Barça, j'allais dire, à chaque semaine suffit sa peine. Là, l'entraîneur principal a été obligé de présenter des excuses aux joueurs. Après, on va pas citer tout raconter les nœuds dans l'oiseau de l'entraîneur adjoint, mais chaque jour il y a des problèmes du côté du Barça. Fred, quand est-ce que ça va se terminer, ou bien il faut, on va dire, un grand coup de balai parce que ça commence à bien faire?
Ouais, tu as raison. À chaque jour suffit sa peine. Je dirais à chaque semaine suffit sa peine. Alors vous ne le connaissez pas, personne ne le connaissait jusque-là. Eder Sarabia. Son papa est très connu. Manu Sarabia était un défenseur important, justement, on parlait de la finale basque de l'Athletic Club de Bilbao, qui a joué à Logroñés, un club qui malheureusement est en très grosse difficulté aujourd'hui, qui a été un club de première division, avec un certain Quique Setién. Voilà. Son fils Eder Sarabia est l'adjoint de Quique Setién. C'était le cas à Las Palmas, c'était le cas au Betis Séville aussi. Et il se trouve que durant le Classico, nous avons vu un Eder Sarabia. En fait, ce sont des images de la télévision, qui n'a pas arrêté de faire des reproches aux joueurs. Notamment, on ne peut pas dire qu'il a été très poli avec un certain Antoine Griezmann, champion du monde quand même. Et puis, il a un peu expliqué le football à Léo Messi. Alors, moi, je me souviens qu'un jour, Jalal Bouzrara m'avait dit que le melon, ça se disait Beter.
Oui, tout à fait.
Voilà. On a quand même l'impression qu'Eder Sarabia, c'est Eder le Beter. Il a un melon, enfin, c'est impressionnant. C'est-à-dire que. Bon, moi, je connais très bien David Bettoni, par exemple, qui est l'adjoint de Zidane. Je n'imagine pas une seule seconde voir David Bettoni parler de la sorte aux joueurs, quoi. Enfin, c'était ridicule. C'est-à-dire que, voilà. Donc, mais en fait, ces images qui ont été relevées par la télé espagnole, elles n'ont fait que confirmer l'attitude qu'avait déjà ce monsieur pendant les entraînements dans le vestiaire. Donc, on a vraiment le sentiment que ça passe pas avec Setién, qui ne montre pas beaucoup de personnalité par rapport aux joueurs, et que Eder Sarabia, son adjoint, qui est jeune en plus, en montre un petit peu trop et explique le travail. À un moment, il parle d'Antoine Griezmann, il fait « Ah, mais il est nul, il fait pas ce qu'il doit faire, etc. » Bon, sans les conseils d'Eder Sarabia, Griezmann a été champion du monde en étant sûrement le meilleur joueur de l'équipe de France. Il a terminé 3e au Ballon d'Or. Je ne suis pas sûr que ce soit l'attitude nécessaire, en tout cas l'attitude adéquate, pour faire fonctionner ce club qui, sincèrement, file un très très mauvais coton.
Justement, le Barça, au-delà des résultats qui peuvent être bons, moins bons, c'est l'image que renvoie le Barça depuis quelques semaines. Au-delà du côté sportif, bien sûr, beaucoup de problèmes au sein du club, l'administration, beaucoup d'épisodes qui ont marqué la marche du Barça ces dernières semaines. Retour en Italie, après on va revenir en Espagne, parce qu'il y avait des, il y aura des matchs importants, même si on le sait, le huis clos, il y a le Barça qui accueille la Real Sociedad et le Real qui se déplace chez le Betis. Et Betis sur son terrain avec son public, rien à voir avec un match à huis clos. L'Italie, bien sûr, on a parlé de la Juve, des problèmes, la maman de Ronaldo, on le sait, Ronaldo qui est en forme ces dernières semaines. Mais il y a d'autres affiches intéressantes ce week-end, Simone.
Bah oui, surtout pour moi, l'autre affiche à suivre avec beaucoup d'intérêt, ce que ça va se passer au Milan, parce que Milan, qui vit un des meilleurs moments de la saison, avec une victoire face au Genoa, récupérer une place européenne, la sixième place, donc à l'égalité avec le Napoli de Gattuso. Et aujourd'hui, Milan vit aussi, malheureusement, des soucis importants extrasportifs, avec un divorce annoncé, celui de Boban, aujourd'hui directeur général, celui très probable de Paolo Maldini, qui est directeur sportif. Donc aujourd'hui, dans un contexte dehors football très compliqué, le travail de Stefano Pioli, qui a trouvé la façon de tranquilliser un peu une équipe qui allait mal et de redonner des points et un objectif important, au moins la qualification en Europa League, mais il y a encore une demi-finale retour à jouer en Coupe d'Italie. Cette affiche face au Genoa, ça devient très important, je dirais presque capital pour Milan aujourd'hui. Ibrahimovic, c'est celui qui a redonné de l'enthousiasme, et récupérer, même si pour quelques semaines, une sixième place qui veut dire Europa League, ça lancerait totalement les fins de saison du Milan. Déjà, on a perdu cette saison l'Europa League du Milan pour des accords de fair play financier. Vivre encore une saison sans Milan en Europe, même si l'Europe moins importante, l'Europa League, ce serait triste et ce serait vraiment de l'oxygène frais, de l'air frais qui arriverait pour les supporters de Milan, comme je disais, dans un contexte très compliqué. Donc ces matchs face au Genoa pourraient être vraiment le énième départ pour un bon final de saison de Rossoneri.
Khaoula Abidine qui nous dit bonsoir. Quel mauvais sort pour le spectacle du football après la décision de jouer les rencontres à huis clos. Voilà donc pour Khaoula Abidine. Je parlais des affiches du week-end en Italie, mais il y a aussi des matchs intéressants en Espagne. Pour rester dans le sportif, bien sûr, Fred, je parlais du Real face au Betis en déplacement, le Barça face à l'équipe de la Real Sociedad, mais il y a aussi le FC Séville face à l'Atlético Madrid, Fred.
Oui, c'est trois belles affiches, hein, parce que on a là, parmi les équipes qui jouent le mieux au football, même si Séville a quelques petits problèmes et qu'il commence à y avoir quelques sifflets et des petits mouchoirs blancs contre l'entraîneur, contre Julen Lopetegui, Séville reste l'une des équipes qui fait le plus beau football en Espagne, mais le pompon, c'est pour la Real Sociedad, qui, on vient d'en parler, s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. Un déplacement à Barcelone où ça va être très compliqué. On sait qu'à l'aller, la Real Sociedad avait gagné. Et que là, le Barça, vu l'état physique qu'ont montré les Barcelonais, je les ai vus de mes yeux vus, hein, dimanche dernier lors du Classico, il y a de quoi s'inquiéter un petit peu, notamment Messi, parce qu'on ne va pas se cacher les choses. Messi joue blessé. En tout cas, il joue avec une douleur à un genou. L'autre jour, après le match contre le Real, une question d'un journaliste catalan en salle de presse où j'étais présent à Quique Sétienne, qui a fait un peu son étonné, qui a noyé le poisson. Bon, il est évident que si le Barça avait des alternatives à Messi, si le Barça avait un effectif un peu plus fourni, eh ben Messi pourrait peut-être se reposer pour pouvoir faire reposer justement ce genou qui est douloureux. Donc Messi ne joue pas à 100%, c'est évident. Donc je pense que ça sera un match très très compliqué pour les Catalans.
Voilà donc pour le Barça, et certains sont déçus par la prestation de Messi. Et Fred déjà le disait il y a quelques semaines que Messi était touché, et également la prestation de Messi face au Real, mais pas que face au Real. Mais il faut rappeler quand même, parce qu'à chaque fois on fait la comparaison avec Lionel Messi de ces dernières années, on ne va pas se le cacher bien sûr, parce que Messi il y a quelques années jouait avec Xavi, avec Iniesta, avec Abidal, avec Puyol. Là, aujourd'hui, le renfort pour l'instant, les joueurs qui ont été engagés par le Barça, eh bien, pour l'instant, c'est la déception. L'Italie, on a posé la question tout à l'heure à David Lortolari, pour le match amical entre l'Allemagne et l'Italie à la fin du mois, aura-t-il lieu ou bien il sera annulé, comme le demande la municipalité de Nuremberg? Des informations en Italie, Simone?
Pour l'instant, la fédération aimerait quand même tenir ces matchs.
C'est un match quand même important de préparation. Il y a la sensation que d'ici à la fin du mois, les choses puissent devenir pires dans tout le monde, dans toute l'Europe, surtout au niveau du football. Donc les sensations sont négatives, mais c'est vrai que la fédération aimerait bien faire un test si important avec un adversaire de qualité pour aider Roberto Mancini dans la préparation à l'Euro. Bien sûr, tous les discours après sur est-ce que l'Euro il y aura vraiment lieu, est-ce que sera reporté, seront à faire, mais pour l'instant, l'envie de continuer à se préparer normalement et donc avec un adversaire comme l'Allemagne, c'est dans la tête de Roberto Mancini.
Une dernière question, Fred, d'un auditeur. Le huis clos en Espagne, où en est-on?
Bah, en tout cas, pour a priori, les matchs d'Europa League avec des clubs italiens, Retafe qui reçoit l'Inter devrait se jouer. En tout cas, la recommandation du ministère de la Santé, c'est que ça se joue à huis clos. De même que le match de Ligue des Champions, Valence, le match retour à Atalanta. Ce qui pose quand même un gros, gros problème, parce qu'il y a une remontada que devraient faire les Valenciens. On sait que Mestalla est un stade qui boue, mais a priori, ça va être à Puerta Salada, comme on dit en espagnol, à huis clos, puisque, vous savez, il y a des supporters espagnols, et notamment un journaliste, qui est d'ailleurs un de mes copains, qui a été contaminé lors du match aller à Milan. Donc voilà, il y a ce risque énorme. Et on peut voir aussi, peut-être que ça sera le cas aussi pour le Barça qui reçoit Naples. Hein. Donc, a priori, ça sent pas très bon à ce niveau-là. Et c'est quand même dommage pour le spectacle, ça c'est clair.
Voilà, merci beaucoup Frédéric Hamel à Madrid et également Simone Rovira pour le football italien. Et justement, c'est ce que disait tout à l'heure Raoul Abidine, quel mauvais sort pour le spectacle du football après la décision de jouer certaines rencontres, mais bien entendu les matchs à huis clos. Mais la santé, c'est primordial et très important. On félicite aussi parce que notre ami Alci qui a félicité l'équipe sénégalaise qui a remporté la Coupe arabe des U20, c'était il y a quelques jours, avec une victoire face à la Tunisie en finale 1-0. À propos des coupes africaines, eh bien, dès ce soir, le Zamalek du Caire joue en Tunisie face à l'Espérance. Les Égyptiens avaient gagné la première manche sur le score de 3-1. La suite demain, samedi. Merci à tous et bonne soirée à l'écoute de Média.
Centralmente, ancora grande idea, vantaggio Juve, a sorpresa con un inserimento alle spalle della difesa del Lille.
Buona partita per il Vincere, va bene, va bene, che buona palla per la Carvalho, che buona palla per il Vincere, gol, 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 gol. Buffon brings it down out of the sky brilliantly, and he'll curl it, oh, what a goal! On your full debut, Sofiane Buffon shows what he's got in his locker.
C'est pas terminé. Et Neymar, voilà le premier but de Neymar en Ligue 1 sur un service d'Edinson Cavani. Un prêté pour un rendu entre l'Uruguayen et le Brésilien. Une relation qui est en train de naître.